VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous en direct de Washington. Ravi de vous retrouver en ce mardi 6 février 2018. Les titres que nous allons développer, le patron de l'ONU critique les réformes programmées de la Constitution au Burundi. Et d'ailleurs, en fin de magazine, plein feu sur les réfugiés burundais à la maison de Shalom au Rwanda.
Au Rwanda, plus de 85 000 réfugiés burundais vivent dans des villes comme Kigali et Mahama.
Également dans l'actualité au Tchad, sévère mise en garde du gouvernement, partis et associations qui passeraient outre l'interdiction de manifester. L'ONU réclame une trêve de moins un mois en Syrie. Et puis, ne manquez pas non plus vos rubriques habituelles, la Minute Éco et la page sportive. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, critique la volonté persistante des autorités du Burundi à réformer la Constitution sans tenir compte des avis de l'opposition dans un rapport remis aux 15 membres du Conseil de sécurité. Même si le Burundi a un droit souverain à amender sa Constitution, je pense fermement qu'un processus aussi important doit être conduit d'une manière inclusive afin d'obtenir une participation et un consensus les plus larges possibles. Parmi les acteurs clés de la vie politique dans ce pays, précise-t-il dans ses recommandations. Un référendum prévu en mai pour une révision de la Constitution qui permettrait à Pierre Nkurunziza de briguer à partir de 2020 deux mandats de 7 ans. Nous parlerons des réfugiés burundais au Rwanda dans la deuxième partie du Monde aujourd'hui. Au Tchad, mise en garde sévère cet après-midi du ministre de l'administration territoriale à l'endroit des partis politiques et des ONG qui violeraient l'interdiction de manifester. Ahmad Mahamat Bachir menace de suspendre leurs activités de rassemblement ont été dispersées par la police aujourd'hui à N'Djamena où les appels à protester contre les mesures d'austérité se multiplient. Le point avec notre correspondant André Kodmajingar.
Une véritable démonstration de force ce mardi au quartier général du porte-parole des partis politiques de l'opposition et initiateur de cette marche, Jimmy Clément Bagao, qui voulait regrouper autour de lui quelques chefs des partis politiques et des militants pour marcher en direction de la commune du dit arrondissement. Ils ont été très vite dispersés après quelques pas par les forces de l'ordre avec du gaz lacrymogène. Les témoignages recueillis sur les lieux font état de 5 personnes blessées et 10 d'arrestations. Mise en garde sévère du ministre de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Ahmad Mahamat Bachir menace de sanctionner toute organisation qui tenterait de narguer l'autorité de l'État.
Désormais, tout parti politique ou association de la société civile qui tenterait de défier une interdiction quelconque de marche verra ses activités purement et simplement suspendues conformément à la loi et la procédure de dissolution sera immédiatement engagée.
Ahmad Mahamat Bachir informe à qui veut l'entendre qu'aucune manifestation pacifique ne sera autorisée dans cette situation de crise sociale et sécuritaire. D'autres manifestations ont été violemment dispersées à Sar dans le sud du Tchad par des militaires. Aucun bilan n'a été fourni pour le moment. André Kodmajingar N'Djamena, VOA Afrique.
Je vous le disais en titre, Niamey a accueilli aujourd'hui un sommet des chefs d'État du G5 Sahel qui regroupe la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Objectif, boucler le financement de cette force militaire conjointe qui combat les groupes djihadistes dans la région sahélienne. De la capitale nigérienne, la correspondance d'Abdoul Razak Idrissa.
Près d'une année après son lancement, le financement de la force conjointe du G5 Sahel qui doit lutter contre le terrorisme et les crimes organisés dans cette région n'est toujours pas bouclé malgré la création récente d'un fonds fiduciaire pour accueillir les contributions des partenaires. Les 500 millions de dollars américains nécessaires pour l'opérationnalisation de cette force tardent encore à être mobilisés par les 5 pays. C'est pourquoi leurs chefs ont décidé à ce sommet ordinaire de Niamey d'organiser une conférence à Bruxelles le 23 3 février prochain pour demander à d'autres partenaires de mettre la main à la poche. L'Union européenne, la France, les États-Unis d'Amérique et l'Arabie saoudite ayant déjà fait des annonces de soutien financier. La conférence de Bruxelles sera le premier acte de la présidence nigérienne de cette organisation, puisqu'à ce sommet de Niamey, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a passé le flambeau à Issoufou Mahamadou du Niger pour une année à la tête du G5 Sahel. A noter aussi que toujours à l'occasion de ce sommet de Niamey, l'ancien patron de la MONUSCO, Mamane Sambo Sidikou, est nommé secrétaire permanent du G5 Sahel. Il remplace un autre Nigérien, Mohamed Najim. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
En Afrique du Sud, la pression s'accentue sur le président Jacob Zuma pour qu'il démissionne. Son allocution sur l'état de la nation prévue ce jeudi a été reportée. Son parti, l'ANC, se prononcera demain sur ce qui est présenté comme un sujet de grande préoccupation. Raissa Girondin nous en dit davantage.
Le discours annuel du président sud-africain Jacob Zuma, initialement prévu jeudi devant le Parlement, a été reporté selon une dirigeante de l'ANC, Bale Kambete, craignant que son allocution ne soit fortement perturbée. Les dirigeants de l'ANC, qui se sont réunis en urgence hier, ont convoqué pour demain mercredi le comité national exécutif pour tenter de trancher sur le départ anticipé du président Zuma. Cette instance, qui a tous les pouvoirs, même celui de destituer le président, rendra sa décision publique. Dimanche, le comité de travail de l'ANC a rencontré M. Zuma, qui aurait refusé de démissionner. Des partisans du nouveau patron de l'ANC, Cyril Ramaphosa, font pression pour obtenir au plus vite son départ. La fondation Nelson Mandela aussi demande au président sud-africain de démissionner, mais ses partisans estiment qu'il doit terminer son second mandat, qui expire en 2019.
Également dans l'actualité africaine, mais en plus bref, le chef de l'opposition zimbabwéenne, Morgan Tsvangirai, soigné en Afrique du Sud pour un cancer du côlon, est gravement malade, d'après son parti qui ajoute que ses partisans doivent s'attendre au pire. Des villageois de Sierra Leone ont témoigné ce mardi devant la justice britannique des violences commises par la police de leur pays au cours d'une audience menée à Freetown dans le cadre du procès de la compagnie minière Tonkoli Iron Ore. L'entreprise est poursuivie par 142 plaignants pour complicité dans des actes de répression commis par la police en 2010 et 2012. Tonkolili, désormais propriété du chinois Shandong Iron et Steel Group, nie toute responsabilité dans ces incidents. La famille de l'opposant anti-islamiste tunisien Chokri Belaïd, assassiné il y a 5 ans, jour pour jour, a de nouveau réclamé mardi la vérité sur son meurtre en jugeant que l'enquête avait été superficielle. Et puis, un membre de l'opposition kényane a été inculpé aujourd'hui de trahison devant un tribunal pour avoir participé à l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga, considéré par le pouvoir comme un défi à son autorité.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est la guerre des mémos à Washington. La commission du renseignement de la Chambre des représentants a autorisé la diffusion du document rédigé par des élus démocrates en réfutation d'un mémo républicain mettant en cause l'attitude du FBI et du département de la justice dans l'enquête russe. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
Le président Donald Trump dispose désormais de 5 jours pour examiner la demande pour rendre public le document démocrate. Cette requête fait suite à une démarche similaire de la part des républicains pour déclassifier leurs propres notes confidentielles. Le mémo Noon a été déclassifié vendredi par le président. Il porte sur ce que les républicains considèrent comme un abus de pouvoir du FBI qui aurait entrepris la procédure secrète de mise sur écoute à partir d'octobre 2016 de Carter Page, ex-conseiller du candidat Trump. Les républicains accusent la police fédérale de n'avoir pas indiqué au juge autorisant ces écoutes que la campagne de Hillary Clinton a cofinancé le dossier de la mise sur écoute de M. Page. Les démocrates craignent que ce mémo ne serve de prétexte pour envoyer des responsables de la police fédérale et du ministère de la Justice, ce qui pourrait entraver l'enquête du procureur spécial Robert Mueller. Ce dernier travaille sur l'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016 et sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump.
Les représentants des Nations Unies en Syrie ont appelé aujourd'hui un cessez-le-feu immédiat de moins un mois afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Alors que des bombardements aériens ont fait des dizaines de morts dans des zones rebelles près de Damas et dans le nord-ouest du pays. La commission d'enquête internationale sur la Syrie a dénoncé le siège de la Ghouta orientale par les forces gouvernementales et ce qu'elle appelle les bombardements aveugles et la famine imposée à la population civile. Les frappes aériennes ont touché au moins 3 hôpitaux ces dernières 48 heures. À l'approche du carême, le pape François a condamné aujourd'hui les violences contre les migrants quelques jours après la fusillade en Italie visant des migrants d'origine africaine. Il a exhorté les catholiques à réfléchir aux causes de ces violences. Samedi, un homme a ouvert le feu sur des migrants africains à Macerata, dans le centre de l'Italie, faisant au moins 6 blessés. L'acte a été qualifié de délibérément raciste et a replacé le thème de l'immigration sur le devant de la scène politique dans la perspective des élections du 4 mars en Italie. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité ce soir. Sans plus tarder, un tour d'horizon de l'actualité économique en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Eric Manirakiza.
La Côte d'Ivoire va allouer plus de 7 milliards de dollars à l'éducation entre 2018 et 2020. Le premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly l'a annoncé à Dakar pendant la 3e conférence de financement du partenariat mondial. Cette rencontre a levé des fonds pour soutenir l'éducation de 870 millions d'enfants dans 89 pays qui englobent 78% des enfants non scolarisés dans le monde. L'industrie minière sud-africaine mise sur un changement politique rapide à la tête du pays pour obtenir des réformes capables de relancer durablement la confiance des investisseurs en son avenir. Le patron de la Chambre sud-africaine des mines, Roger Baxter, a dit hier au Cap qu'il est possible d'envisager l'avenir avec un optimisme raisonnable sans s'inquiéter. Le chiffre d'affaires des compagnies minières a progressé de 13% avec 43 milliards de rand. Le secteur emploie encore 460 000 salariés. Le déficit commercial américain a bondi de plus de 12% à 566 milliards de dollars en 2017. C'est la plus forte hausse depuis 2009-2010. Outre les services, le solde des échanges avec le reste du monde a atteint un déficit de plus de 796 milliards. Il a aussi atteint l'an passé un niveau record avec la Chine à plus de 375 milliards. Parallèlement, les États-Unis ont augmenté leurs importations de biens en provenance de 47 pays et leurs exportations à destination de 29 pays.
Oui, vous l'avez compris, c'est l'heure d'un condensé de l'actualité sportive. Nous retrouvons Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
L'ancien sélectionneur de l'Algérie réclame le paiement de son salaire.
Et oui, l'Espagnol Lucas Alcaraz, limogé en octobre dernier après 6 mois de contrat, a saisi la FIFA pour obtenir le paiement de son salaire jusqu'à l'expiration de celui-ci en juillet 2019. On se souvient de cette campagne désastreuse de qualification pour le Mondial 2018. 3 défaites en 3 matchs. La Fédération algérienne de football avait alors mis fin aux fonctions de Lucas Alcaraz. C'était le 18 octobre dernier. Les négociations entre la Fédération et Alcaraz sur le montant des indemnités de rupture de contrat pour lui et ses 2 adjoints n'ont pas abouti. Le contrat de Lucas Alcaraz courait jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. En conséquence, le technicien espagnol réclame à la Fédération algérienne de football 21 mois de salaire, soit 1 260 000 euros, selon le quotidien algérien Liberté. On rappelle que le sélectionneur espagnol a été remplacé par l'ancien international algérien Rabah Madjer.
Les Pays-Bas ont un nouveau sélectionneur.
Et oui, Ronald Koeman, 54 ans, il a été nommé nouveau sélectionneur de l'équipe des Pays-Bas qu'il aura pour mission de qualifier pour l'Euro 2020. Le Néerlandais, ancien international, 78 sélections et vainqueur en tant que joueur de l'Euro 88, a signé un contrat de 4 ans. Il succède à son compatriote Dick Advocaat qui n'avait pas réussi à qualifier l'équipe néerlandaise pour le Mondial 2018. On rappelle qu'en tant qu'entraîneur, Ronald Koeman a été l'entraîneur principal au Vitesse Arnhem, mais également l'Ajax d'Amsterdam, le Benfica, le PSV Eindhoven, Valence ou encore Feyenoord. Il avait aussi été l'adjoint de Guus Hiddink en sélection et de Luis Van Gaal au FC Barcelone.
Et puis Nicolas, NBA, championnat de basket nord-américain.
Washington carbure à plein régime, victoire 111 à 102 contre Indiana. Autre équipe en forme, Utah, qui a largement battu la Nouvelle-Orléans, 133 à 109. Ailleurs, Détroit a battu Portland, 111 à 91. Enfin, Dirk Nowitzki est devenu le sixième joueur de l'histoire à disputer 50 000 minutes en NBA. Mais Dallas n'a pas pu lui offrir la victoire pour fêter ce bel accomplissement. Les Mavericks sont derniers de la Conférence Ouest. Ils ont été battus par les Clippers de Los Angeles, 101 à 104.
Merci bien, Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui se poursuit avec notre Trans Magazine. Jacques Aristide toujours avec vous sur VOA Afrique, émettant de la capitale américaine. Nous ouvrons cette partie avec la crise anglophone au Cameroun. Les États-Unis condamnent le regain de violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. Washington en profite pour appeler Yaoundé à garantir les droits de Sissoukou Ayouk Tabé et 46 autres personnes considérées comme des séparatistes qui ont été récemment extradées du Nigeria. Anastasie Tudiech s'est entretenue avec Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain.
Ces 47 Camerounais sont allés au Nigeria. Ils ont essayé dans des demandes d'asile au Nigeria. Donc, tout d'abord, les États-Unis exhortent le Cameroun et le Nigeria à s'acquitter de leurs obligations en vertu du droit international, c'est-à-dire de s'abstenir de renvoyer de force les demandeurs d'asile dans le pays d'origine. Tout simplement, ça c'est notre demande.
Le pouvoir camerounais considère désormais Sissoukou Ayouk Tabé, chef de file du mouvement séparatiste de l'Ambazonie, et ses hommes comme des terroristes et donc qu'ils doivent répondre de leurs crimes devant la justice du Cameroun. Quelle est la position du département d'État sur cette question précisément?
Donc ça c'est une question de la loi camerounaise. Donc c'est tout à fait normal qu'il y aura procédure. Mais pour les États-Unis, ce que nous insistons, c'est que ça soit ouvert dans un état de droit.
La crise dans les zones anglophones s'est lentement muée en conflit armé, avec 22 soldats et policiers tués depuis novembre. Pensez-vous que la résolution du conflit peut être militaire?
J'imagine que non. Si nous parlons d'une solution, nous espérons que ça ne sera pas par la violence. Tout d'abord, j'aimerais m'adresser nos plus sincères condoléances aux familles des victimes. Comme vous avez dit, il y a plusieurs personnes qui ont été tuées dans cette violence. Les États-Unis condamnent les violences dans cette situation. Et nous imaginons que les autorités camerounaises vont chercher une solution qui n'est pas uniquement militaire, mais qui est politique, qui est dans un état de droit pour résoudre cette crise dans la région anglophone.
Comment les États-Unis réagiraient-ils en cas de procès qu'ils ne jugeraient pas équitable?
Je ne peux pas imaginer, dans une situation hypothétique, notre réaction. Mais nous espérons bien que ça va continuer dans un contexte qui est dans l'état de droit et qui est transparent pour ces 47 Camerounais et pour d'autres détenus.
On écoutait Brian Newbert, porte-parole francophone du département d'État américain.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
L'État malien a été condamné à payer 25 milliards de francs CFA à une société qui a fourni des équipements militaires à son armée, d'après une décision de la Cour suprême. Cet achat de matériel, de même que l'acquisition d'un avion présidentiel, pour un montant de 40 millions de dollars, tous deux sans appel d'offres, avaient valu en 2014 au Mali des sanctions des institutions financières, notamment le gel pendant 6 mois des décaissements du Fonds monétaire international. Pour faire le point sur ce dossier, Abdourahmane Adia a joint le journaliste malien Alexis Kalambi.
Ça fait un grand malaise parce que c'est un dossier
qui n'avait jamais été clos, qui avait déjà suscité beaucoup d'encre de salive et qui, au moment où il se faisait oublier, revient au devant de la scène. Et de cette façon-là, je crois que ça va contribuer à sérieusement assombrir le bilan du président.
On est à quelques mois de la présidentielle. Est-ce que cela peut jouer un peu contre le président Ibrahim Boubacar Keïta?
Oui, bien sûr que ça va compter en tout cas. Parce que si vous avez suivi tous ces détracteurs disent parlent des affaires. Et ça fait partie de ce dossier. D'abord, les gens vous disent, oui, le marché du gros star. Bien malin, qui pourrait vous dire exactement à combien ça s'élève, qu'est-ce qui a été livré, qu'est-ce qui n'a pas été fait et quelle est la participation des banques dedans. Je pense que c'est vraiment un dossier qui est relancé, mais un dossier qui va vraiment faire de beaucoup.
Ça relance aussi le débat sur l'attribution des marchés, sur le gré à gré, et donc, du coup, dans la lutte contre la corruption.
Mais à tous les niveaux, parce que ce dossier est l'exemple typique du manque de transparence et surtout des conséquences de cette manque de transparence. Parce que, je le disais tout à l'heure, oui, il y a eu tellement de supputations. Sur ce dossier, comment ça a été monté, quelle est la part des banques, quelle est la part des politiques concrètement, qu'est-ce qui a été investi dans l'armement. Ça, c'est toutes les questions qui n'ont jamais été répondues. Ça, c'est tous les aspects qui sont restés nébuleux.
Et selon votre analyse, vous pensez que l'État va tout simplement payer les 25 milliards ou va tenter de faire appel?
En tout état de cause, aujourd'hui, là où on est, l'État ne pourra pas payer. Alors, si Ibeka rempile, puisque visiblement il est candidat, il trouvera un moyen de régler à l'amiable. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vient, il est évident qu'il ne payera pas et qu'il va continuer la procédure, et ce qui va faire que les décisions vont surgir et qu'on saura exactement qui est mêlé et jusqu'à quel niveau.
C'était le journaliste Alexis Calambri qui était en ligne de Bamako.
Dans Washington Forum ce jeudi 8 février 2018, en Guinée, cela faisait une décennie que cela n'était plus arrivé. La possibilité de voter dans une élection locale, d'élire son maire, son conseiller municipal ou régional. Avec près de 6 millions d'électeurs appelés aux urnes dimanche dernier, 30 000 candidats sur les listes. Quels sont les enjeux de ces élections? Comment interpréter le faible taux de participation et la vague de contestation suite aux accusations de fraude? Les conditions sont-elles réunies pour que la Guinée puisse organiser les prochaines élections présidentielles de 2020? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h en temps universel avec Raissa Girondin et ses invités.
Retour sur la crise politique en Afrique du Sud. La question du départ anticipé du président Jacob Zuma divise profondément son parti depuis des semaines. Le discours annuel du chef de l'État au Parlement a même été renvoyé au calende grec. Pour en parler, Eric Manirakiza a recueilli les propos en Afrique du Sud de l'analyste politique Achille Membe.
Il est fort possible que ce mercredi dans la nuit, l'ANC décide effectivement de mettre fin à la présence de M. Zuma à la présidence de la République sud-africaine.
Mais le comité de travail n'a pas le pouvoir de le destituer.
C'est la raison pour laquelle justement le Conseil exécutif national est convoqué pour mercredi dans la soirée. De cette réunion du Conseil national exécutif, on risque de sortir justement la décision de congédier M. Zuma.
Est-ce que Ramaphosa dispose d'une majorité suffisante pour justement le faire partir?
Il dispose, Ramaphosa, d'une majorité relative, telle qu'elle est sortie justement des dernières élections lors du congrès de l'ANC. L'hypothèse est que entre décembre et début février, un travail de fond a été effectué pour faire croître cette majorité. Et donc, le pronostic est que la majorité des membres de ce conseil suivra les instructions de M. Ramaphosa et déposera M. Zuma. Faute de quoi, disons, le Parlement prendra le relais et votera une motion de non-confiance qui fera chuter le gouvernement.
Comment vous expliquez la résistance de M. Zuma? Il a refusé de démissionner lors de la réunion de dimanche soir.
M. Zuma a peur d'aller en prison. M. Zuma, dans les conditions actuelles, risque de sortir du palais présidentiel pour aller tout droit devant les tribunaux. Et donc, j'imagine qu'il voudrait obtenir de l'administration M. Ramaphosa, ou de ceux qu'il soutient, la certitude qu'il ne sera pas poursuivi. Et donc, j'imagine que dans les négociations en coulisses qui ont lieu, M. Zuma essaye d'obtenir l'immunité par anticipation, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'ensemble de sa famille. Mais la stratégie qu'il poursuit est très risquée, à la fois pour lui-même, pour l'ANC et pour l'Afrique du Sud en général. L'ANC risque d'en sortir plus divisé qu'auparavant, et pour un pays qui a besoin de stabilité, qui a besoin d'être gouverné et qui a besoin de corriger la mauvaise direction qu'il a suivie au cours des 10 dernières années. Mais encore faut-il souligner que dans cette affaire, l'ANC n'est pas le seul acteur. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas confronté à bras-le-corps sa crise interne a fait en sorte que la gestion de cette affaire maintenant lui échappe. Ou en tout cas, ils ne sont pas les seuls protagonistes. Les partis d'opposition sont aux aguets, la société civile également, les tribunaux et évidemment les milieux d'affaires.
Le politologue Achille Bembe, joint à Johannesburg. Plan à présent sur les réfugiés burundais au Rwanda. En tout, quelques 400 000 Burundais ont fui les violences dans leur pays après le mouvement de protestation déclenché fin avril 2015 par l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat controversé, finalement obtenu en juillet de la même année. 85 000 ont trouvé refuge au Rwanda. La majorité est installée dans un camp dans l'est du pays, mais 28 000 vivent à Kigali, dont des journalistes, membres de la société civile, politiciens et plus généralement des Burundais relativement aisés. Je vous propose d'écouter le reportage d'Eric Murunzi.
Au Rwanda, plus de 85 000 réfugiés burundais vivent dans des villes comme Kigali et Mahama. Certains Burundais ont décidé de prendre les choses en main malgré les obstacles. Marguerite Barankitse est la fondatrice de la Maison Shalom, une ONG internationale qui soutient les réfugiés burundais au Rwanda.
J'ai créé la Maison Shalom en 1993. Mon histoire officielle part par un refus de la haine fratricide.
La Maison Shalom apporte son soutien aux jeunes réfugiés burundais en matière d'éducation, de soutien socio-économique, de soutien psychosocial et culturel. La Maison Shalom a ouvert un centre communautaire à Kigali pour permettre aux réfugiés de vivre une vie digne en exil et pour préparer un retour constructif au Burundi. L'organisation mène des activités de soutien pour aider les réfugiés à surmonter les défis de la vie en exil.
Je suis venue au Rwanda, je me suis dit le même message que j'avais lancé en 1993, je voulais le créer ici et j'ai créé Oasis of Peace, Maison Shalom. Un lieu de guérison de mémoire, j'ai pris les jeunes, je leur ai dit, personne ne peut arrêter l'amour. Nous allons retourner chez nous, nous allons y retourner debout.
La Maison Shalom offre des ateliers d'apprentissage aux jeunes réfugiés âgés de 18 à 30 ans.
Avant mon apprentissage dans l'atelier, j'étais ici au Rwanda réfugié comme les autres et je n'avais rien à faire. Après, j'ai entendu l'appel de Maison Shalom qui appelait les jeunes réfugiés à venir apprendre des métiers à la Maison Shalom. Et j'ai répondu à l'appel. J'étais chanceux et j'ai rejoint les autres et j'ai commencé l'apprentissage avec les autres. Nous avons commencé en mai.
Les enseignants sont des réfugiés contactés par Maison Shalom. Ils sont ravis de pouvoir contribuer.
Nous nous réjouissons de cette occasion de partager nos connaissances avec les autres, des connaissances qui contribueront à leur développement personnel.
Le plus important soutien que donne la Maison Shalom est l'espoir.
La Maison Shalom est arrivée à envoyer autant d'enfants à l'école et à leur donner un centre communautaire où peuvent venir et gérer comme guérison de mémoire.
Et voilà, point final à ce numéro du Monde aujourd'hui. Georges Léonard Sagno a dirigé la mise en onde. C'était Bill Barber à la technique. Jacques Aristide au micro depuis la capitale américaine. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique.